Au moment où vous devez le plus travailler à votre libération, votre mental devient à ce moment-là tout puissant. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir créer des images, à donner corps aux choses. Si vous voulez donc créer, vous devez penser. Et c'est par votre pensée que la création va avoir lieu. Sitôt donc qu'existe en vous une pensée erronée, une pensée qui est un peu trop archaïque et qui compose en vous des processus qui ressembleraient à des obstacles parce que la note de libération n'est pas à l'intérieur, automatiquement, votre pensée crée un obstacle. Si vous pensez que vous êtes un être évolutif, eh bien vous serez toute l'éternité durant coincé dans l'évolution. Et votre pensée rejettera sans arrêt sur le tapis les mêmes cartes à jouer. « Évolue, évolue !» vous criera la pensée. Et vos réincarnations seront rejetées sur le tapis et de nouveau il faut rejouer le jeu. Parce que l'on croit que c'est le jeu qui est à jouer. Je ne dis pas que les réincarnations ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas non plus qu'un homme peut se libérer en une seule vie ou en une seule méditation. Je dis simplement que pour que vos réincarnations vous amènent vraiment à la libération, que pour que vos méditations vous conduisent vraiment à la libération, il vous faut apprendre à penser que vous n'êtes pas des êtres en état d'évolution, mais en état de libération. On a trop confondu les deux termes, si bien que l'on appelle la spiritualité un chemin d'évolution. Je ne veux pas dire que tous les anciens doctes de la loi, tous ceux qui ont parlé avant, ont dit et prononcé une erreur. Je dis simplement que pour les temps nouveaux qui viennent, il faut penser différemment, parce que sinon le temps nouveau ne pourra pas être là. Si un homme pense qu'il doit évoluer, automatiquement, va se créer dans son esprit tout un processus de pensée qu'il ne peut pas soupçonner véritablement, mais qui s'effectue immanquablement. S'il pense qu'il est en état d'évolution, il va penser que les autres hommes ne sont pas évolués. Il va penser que d'autres hommes ont atteint un certain niveau d'évolution. Et il va donc classer l'humanité en deux grandes parties, les non-évolués et les évolués. Il va aussi classifier tous les règnes comme étant des expressions inférieures ou supérieures, mettant les maîtres largement au-dessus de tous les règnes que l'on peut connaître sur la Terre. Et ainsi de suite, ce genre d'individu va hiérarchiser la vie et toutes les formes de vie. Et dans cette hiérarchie, eh bien, il va chercher automatiquement sa place. Car c'est bien beau de hiérarchiser les autres, mais où est-ce que je me trouve, moi? Et c'est là que le drame commence. Parfois je me trouve évoluée, et parfois je me trouve tellement petit. Parfois j'ai du cœur à l'ouvrage, et parfois tout s'évade de moi. Je n'ai même plus la foi. La méditation n'a qu'un mauvais goût. Je n'aime plus ma femme ou je ne m'intéresse plus à mon mari. Je ne veux surtout plus voir mes enfants, j'en ai assez. Et puis la profession, n'en parlons pas. Si je pouvais devenir marginale, ne serait-ce que 3 mois par an, qu'est-ce que je serais content. Il faut savoir que ce témoin qu'est la conscience va chanter toutes les chansons que vous lui mettrez devant les yeux, sitôt que vous allez l'obliger à chanter cette chanson. Sitôt que vous allez croire tous ces chants contraires. Sitôt que vous allez croire donc à l'existence du bien et du mal et de toutes les dualités, et y compris de l'évolution. Ce qui ne veut pas dire que l'évolution n'existe pas. Mais il ne faut pas la conceptualiser comme vous la conceptualisez. Lorsque l'on parle d'involution et d'évolution, nous ne disons pas qu'il existe l'esprit pur et que cet esprit pur, pour des raisons encore inconnues ou trop obscures pour l'expliquer à l'intelligence humaine, que cet esprit pur se scinde, se précipite dans la matière, se déforme complètement et tellement qu'il devient contraire à lui-même. Et que plongé dans cette matière, il doit ensuite faire des efforts d'évolution pour redevenir divin. Lorsque l'on parle d'involution et d'évolution, et que l'on ne soigne pas le concept philosophique pour bien décrire l'état de pensée avec lequel on doit penser cela, et que l'on cite simplement le côté technique, c'est-à-dire l'enseignement ésotérique, automatiquement l'homme va voir en cela une involution qui est dégradante pour l'esprit et une évolution qui est pleine de richesses pour l'esprit. Et il va se dire, moi, Dieu, j'ai involué pour devenir un anti-Dieu, puisque c'est comme cela que l'on peut considérer l'être humain, mais je dois me rediviniser pour redevenir la monade ou l'étincelle divine, etc. Lorsque l'on parle d'ésotérisme, ce que vous avez à faire, tout de suite, de façon immédiate, vous avez à construire autour de la phrase ésotérique, qui est purement technique, toute la philosophie. Cette philosophie, elle, est la matrice. L'ésotérisme est donc quelque chose qui est technique. Mais ce n'est pas une pensée. C'est une technique. C'est une mécanique. C'est une description des lois. La philosophie que vous devez ajouter à cette description des lois, c'est ce qui va donner le cœur de la loi. Et c'est pour cela que tous ceux qui s'en arrêtent à la description ne connaissent pas la loi et disent des choses complètement contraires à la loi, déforment complètement la loi, si bien que la loi elle-même les rejette et qu'ils n'arrivent pas à évoluer. C'est pour cela que dans certaines religions, dans certains temples, il y avait l'instruction et il y avait, sitôt après l'instruction donnée, 3 heures de méditation. Même si une seule phrase de connaissance avait été donnée, l'initié devait y méditer 3 heures au minimum dessus. Pourquoi ? Pour justement découvrir la philosophie, le concept exact qui sert de matrice et qui est le cœur de la loi. Alors celui qui avale des livres, qui avale des données et qui espère comme cela connaître l'univers se trompe complètement. Parce qu'il peut connaître l'univers, bien sûr, il le connaîtra techniquement. Mais il va par là même créer des obstacles dans sa pensée, car nous avons l'expérience, nous avons vu ce que les temples, ce que les livres, ce que les enseignements ont créé comme blocages mentaux. Et nous savons qu'un enseignement qui est donné à un homme et à un homme qui ne prend pas soin de découvrir la philosophie et de mûrir la philosophie qui va avec. Cet enseignement ne fait que renforcer en l'homme la dualité qu'il suppose comme étant la loi de l'univers et qui mène tout l'univers. Ce qui fait que lorsqu'il va approfondir les livres, lire davantage de livres et qu'il va s'enfoncer davantage dans la loi, il va par là même s'enfoncer davantage dans son erreur parce qu'il va s'enfoncer davantage dans la vision dualiste de l'univers. Et lorsque les maîtres lui parleront d'involution et qu'ils décriront l'involution, eh bien, l'homme va se sentir complètement avili, il va se dire « Mais quoi, mais d'où je viens? C'est impossible! Je ne veux pas, mais je refuse! Je ne veux pas vivre cette vie cosmique dont on me parle, on ne m'a même pas demandé mon avis! Et voilà que j'étais dans les cieux et que l'on m'a précipité sur la terre et que l'on m'a fait passer à travers tous les règnes, et pour être quoi, je vous prie? Pour être un champignon, pour être un ver de terre, pour être un oiseau, pour être un cristal, pour être un arbre. Mais de quel droit? Je ne veux pas jouer ce jeu. J'en ai assez. Si j'avais Dieu en face, je lui dirais ce que je pense. Ce genre de révolte vient, et ce genre de révolte est légitime, mais il ne peut naître que dans la mesure où l'individu garde une vision dualiste. Et lorsque donc les maîtres lui disent « Eh bien, vois-tu, l'esprit a pris la courbe de l'involution. » Automatiquement, l'individu qui a une vision dualiste se dit « L'esprit a chuté. » Il était pur et il s'est sali à travers les règnes. Chaque fois, il a perdu une part de sa divinité. Quelle mauvaise histoire, même si c'est l'histoire de Dieu, mais quelle mauvaise histoire, quel mauvais goût de créer le cosmos pour cela. Si on m'avait laissé faire, j'aurais créé autre chose. Et on se serait un petit peu plus amusé. Pour donc comprendre par l'intérieur et avec la vision juste, donc pour comprendre avec la vision du maître, pour comprendre ce que dit le maître quand il parle d'involution, il faut que l'individu qui essaie d'approfondir cette sagesse se place justement dans la position du sage et non plus de l'humain. L'humain est celui qui balance dans la dualité. Pour lui, le blanc et le noir existent, et c'est un jeu cruel de tous les jours. Pour le sage, le blanc et le noir n'existent pas. Simplement des valeurs apparemment contraires, mais avant tout complémentaires, échangent leur énergie, échangent leur mode de réaction pour créer un troisième élément, qu'est la vie. Sans l'existence des contraires, la vie n'existerait pas. Dieu lui-même n'existerait pas, je vous le dis. Et pour que vous compreniez bien ce que je dis, je vais parler un peu de l'existence de Dieu. Pour que vous cessiez en vous-même de vous comprendre et de vous contempler comme une dualité, et que vous compreniez enfin que cet aspect binaire de votre vie est nécessaire pour déclencher tout simplement la vague de votre vie, je vais parler de l'aspect binaire de Dieu lui-même. Lorsque l'on remonte les noms de Dieu, que ce soit dans la Kabbale ou dans quelconque autre religion ou philosophie ou système ésotérique, on s'aperçoit que plus l'on remonte donc l'extériorisation de la vie une, soit de Dieu, on monte vers de plus en plus d'unité. Si bien que en haut, au début, à la source, il n'y a plus qu'une unité et une seule. La dualité n'existant que après. Simplement, pour comprendre pourquoi cette dualité existe. Il faut comprendre aussi qu'une sorte de dualité existe même dans l'unité. Il y a donc cet aspect binaire, le Dieu un, soit le rayon un par exemple, et puis les deux autres aspects, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour que cette première dualité ou ce premier état binaire existe, il faut que l'unité elle-même soit un état binaire. Sinon, l'unité ne pourrait créer qu'une autre unité. Alors, comment comprendre l'état binaire d'une unité? Où se trouve sa phase cachée à cette unité? Puisqu'il ne s'agit que d'une unité. Alors je dirais que pour voir l'aspect binaire de cette unité, il ne faut pas chercher le binaire dans l'unité elle-même, mais dans la phase cachée de l'unité. Autrement dit, et ceux qui ont étudié la Kabbale me comprendront beaucoup mieux que les autres, et j'invite ces personnes à ensuite expliquer aux autres, un peu plus tard, ce que je dis. Autrement dit, il y a une phase de néant, un néant absolu, ce néant complètement indescriptible dont parlent les très grands sages de la Kabbale et d'ailleurs de tous ceux qui ont donc à un moment donné rencontré Dieu, c'est-à-dire cette unité. Et ayant rencontré cette unité, pour parfaire la connaissance de cette unité, il leur a fallu rencontrer aussi le néant. Car étant constitués de la même façon que l'unité, eux-mêmes contiennent un néant. Le néant ne doit pas être pris comme la phase froide de l'unité qui serait la phase chaude de la vie. Le froid, le chaud, c'est ce qui va exister quand l'unité va créer la dualité ou le premier couple de binaires dans la création, c'est-à-dire le Fils, le Saint-Esprit. Chokma Bina. Si le néant ne doit pas être pris comme la phase froide de l'unité qui serait la phase chaude, il faut imaginer le néant comme étant la phase cachée de toute chose. Et c'est là où votre pensée doit s'entraîner à devenir extrêmement occulte pour comprendre ce que je dis, mais aussi pour comprendre votre propre constitution et pour comprendre un élément qui puissamment reflète la vie de la divinité et qui est l'espace. Si l'on ne peut pas comprendre ce qu'est ce néant, qui est la phase cachée, et ce qu'est cette unité, qui est la phase extériorisée, l'on ne comprendra pas la nature de l'espace et l'espace matériel. Tout ce qui est révélé grâce à une matrice occulte qui est, si on pourrait décrire une masse ou décrire un poids ou décrire un volume, qui est l'égal donc en masse ou en volume ou en poids, qui trouve donc son égal dans le néant. Le néant est donc la matrice qui va permettre une extériorisation. L'extériorisation ou la manifestation, ou vous-même, votre souffle, tout ce qui est vous. Toute la vie ne peut avoir lieu s'il n'y a pas cette matrice qu'est le néant. Donc, lorsque l'on cherche à comprendre la vie et que l'on veut trouver les clés, les mystères de la vie en étudiant la vie, on se trompe complètement de tableau et l'on ne peut pas trouver la clé des mystères. Pour trouver la clé du mystère de la vie, il faut développer la pensée dans un domaine suffisamment occulte pour pouvoir se plonger dans le néant. Je vais parler un peu de l'espace avant de poursuivre sur le néant. Pourquoi est-ce que je dis que la polarité néant et unité, donc néant et existence, permettait de comprendre la vie et la création de l'espace? Je dis cela parce que, étant donné que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, l'espace lui-même est représentatif de l'acte de la création, tel que cet acte de création est conçu dans le mental divin. Et donc, partout, l'on va trouver, dans le cosmos, à l'état physique, on va trouver ces endroits de néant. Parce que le cosmos est en quelque sorte la partie matérielle de la pensée de Dieu. Comme si vous étiez en train de penser quelque chose et qu'au bout de 10 minutes, la pensée se trouvait suffisamment cristallisée pour devenir un monument, une ville avec une vitalité, avec ses événements, etc. Le cosmos, c'est cela, du moins comparable à cela. Et partout, on va trouver une zone de néant et une zone d'activité. Chaque fois que l'on trouvera une zone d'activité, on va dire là est une zone de vie, de divinité. C'est l'endroit d'un logos solaire, d'un logos planétaire ou d'un logos humanité qui est à naître, etc. Et chaque fois que l'on essaiera de comprendre ou de frôler la zone de néant, on dira eh bien là il n'y a rien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Quand j'emploie ou quand j'essaye de décrire le concept du néant, il ne faut pas croire que le néant est simplement et bêtement la traduction du mot néant. Pour comprendre le néant, il faut entrer profondément en soi, sans intention précise, et aller jusqu'à un endroit de la méditation, donc de la conscience, où toute chose semble avoir disparu sans pour autant avoir cessé d'être. Et c'est là le grand problème de la compréhension du néant. Quand l'être humain essaye de comprendre le néant, que ce soit quand j'en parle, ou quand d'autres en parlent, ou quand un individu lui-même commence à soupçonner cette chose et qu'il y tourne tour. Dans cet état, tout semble avoir disparu sans pour autant avoir cessé d'être. Pour celui dont la pensée a suffisamment développer des concepts occultes, pour celui dont la pensée n'est plus prisonnière de la dualité, pour celui-là, le concept de néant, tel que je le dis, pourra être légèrement compris, bien qu'il ne peut pas être compris uniquement parce que j'en parle. Vous ne pourrez le comprendre que parce que vous l'aurez expérimenté, vécu et rencontré. Donc, partout dans l'espace, il y a ces endroits qui sont des véritables tunnels, comme des cordons ombilicaux, qui raccordent non pas les dimensions entre elles, ce qui fait que l'on croit que si l'on prend par exemple ces endroits, ces trous noirs, on va pouvoir aller à Shambhala ou aller dans une autre dimension, et si possible, la plus lointaine. Ces endroits où il n'y a ni temps ni espace, où il y a simplement une existence de néant, un néant existentiel. Ces endroits vous permettent de traverser l'espace et de vous trouver spontanément d'un point à l'autre de l'espace. Et ainsi, si vous savez comment emprunter un tel canal depuis la Terre, vous saurez comment, en quelques instants et sans aucune modification physique, vous trouvez sur une autre planète. Bien sûr, tout le problème ne va pas être de voyager dans ce canal. Tout le problème va être de savoir comment votre dimension d'être humain physique, votre constitution physique, va pouvoir s'adapter au milieu dans lequel vous atterrissez de l'autre côté. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a le problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, avant d'arriver directement sur le plan physique de la planète ou de la zone en question à visiter, vous pouvez arrêter les vibrations pour vous contenter d'un survol encore éthérique. Et c'est ce que font bon nombre de personnes lorsqu'elles se dédoublent et qu'elles partent, que ce soit la nuit ou que ce soit dans un acte volontaire de dédoublement. On ne peut pas se dédoubler sans emprunter en soi-même cette zone d'antimatière et de néant existentiel. Ce qui veut dire que non seulement ces zones de néant et d'antimatière existent dans l'espace, mais cette même zone existe aussi en vous. C'est pourquoi vous avez la possibilité de pouvoir sortir de la matière, que ce soit pour vous dédoubler ou que ce soit pour définitivement mourir. Il n'y aurait aucun moyen de sortie si en vous, il n'y avait pas cette matrice qu'est le néant existentiel. Pour vous, il n'y aurait aucun moyen de repartir de l'existence et de la manifestation. Donc, vous pouvez utiliser la porte de ce néant de façon fréquente par les dédoublements ou de façon quasi définitive par la mort. Ce qui ne veut pas dire que ce néant qui est autour de vous-même, comme une main qui vous soutiendrait, qui vous porterait en faisant bien le tour de votre être, cela ne veut pas dire que ce néant qui est autour de vous absorbe votre vie, absorbe votre vitalité et absorbe votre âme au moment du décès ou au moment du dédoublement ou au moment de la méditation ou de l'initiation. Il ne faut pas croire que tout va retourner nécessairement à ce néant dès que vous allez cesser d'être objectif. Ce néant dont je parle a un exercice technique au moment des dédoublements et de la mort, mais il ne crée pas encore d'exercice spirituel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas basculer dans ce néant avec votre conscience tant que le niveau spirituel pour cela n'est pas atteint. Jusqu'au moment où vous avez atteint ce niveau spirituel, vous ne vous servirez de ce néant que pour sortir du corps, soit par dédoublement, soit pour la mort. Avant cela, ce néant ne vibre pas de façon spirituelle. Donc, pour revenir un peu au discours général, si je m'évertue autant que cela à casser l'archaïsme dans les esprits qui fait croire à l'homme qu'existe le blanc, qu'existe le noir, qu'existe le bien, le mal, l'évolution, l'involution. C'est pour l'empêcher de construire avec sa pensée des édifices et des forteresses dans lesquelles il serait complètement enfermé et qui l'empêcherait de voir la véritable lumière et de recevoir l'initiation. Car c'est de cela qu'il s'agit, recevoir l'initiation. Je ne vous parle pas d'une nouvelle philosophie pour que nous ayons le plaisir entre gens de bonne compagnie et de bonne éducation et de bonne évolution de pouvoir parler de choses très avancées. Je me moque complètement de parler à des gens intelligents. Je me moque complètement que vous me preniez pour quelqu'un d'intelligent. Et je me moque complètement que nous échangions des choses intelligentes. Je voudrais simplement que vous soyez suffisamment ouverts pour accepter les outils avec lesquels vous pouvez recevoir l'initiation et construire votre initiation. Alors je vous le dis, le chemin qui a été parcouru nécessitait certains dogmes, certains outils. Pour celui qui est à parcourir, il faut d'autres outils et d'autres dogmes. Mais pour avoir d'autres outils, il faut accepter de jeter les anciens outils. C'est ce qui est toujours le plus difficile. Le plus difficile n'est pas d'apprendre à travailler avec les nouveaux outils. Le plus difficile est de jeter les anciens outils. Ceux qui vous obligent à un certain système de travail, un certain système de pensée, un certain comportement, une certaine vision, et qui vous maintiennent dans cette vision. Car sachez que si vous faites un certain travail, si vous avez une certaine vision, vous correspondez à un certain plan de conscience. Et vous y restez. Si vous perpétuez telle pensée, telle vision, tel système, vous restez dans le plan de conscience qui correspond à cette vision, ce système, etc. Donc pour changer de plan, changer de vision, pour changer de conscience, changer de vision, changer de concept, écarter, écarteler, éclater les concepts. Pour arriver jusqu'à un certain niveau où le bien, de façon définitive, est implanté en l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'a plus aucun risque de retomber dans certaines idées, dans certains comportements, des comportements qui peuvent lui être néfastes et qui risquent même, dans certaines conditions, de le refouler dans des règnes qui sont inférieurs au règne humain. Donc, quand une certaine direction a été prise, je dirais, lorsque le bien, le positif, a définitivement été installé, il faut que l'homme ne se contente pas simplement de contempler ce bien qui s'est installé en lui. Il ne faut pas qu'il se regarde comme cela le nombril pendant des siècles, qu'il contemple sa foi, qu'il contemple son ésotérisme, qu'il contemple son initiation. Il faut qu'il aille toujours en avant, toujours plus loin. Mais pour aller plus loin, et surtout lorsque les choses ont commencé à s'enraciner, pour aller plus loin, il va falloir accepter de s'écarteler. Lorsqu'il s'agit de planter, c'est très facile. Rien n'est plus facile que de créer l'évolution dans des civilisations débutantes. Il suffit de leur dire que Dieu existe. Il suffit de manipuler quelque peu le fanatisme, même si c'est de façon très légère et très mesurée, mais le manipuler quand même pour créer une religion, pour créer un dogme et dire si tu fais ceci, c'est bien, si tu fais cela, c'est mal, si tu fais ce qui est bien, tu évolues, si tu fais ce qui est mal, tu es damné. Rien n'est plus facile que de faire cela. Rien n'est plus facile que de faire comprendre cela aux esprits. Donc, vous avez fait ce qui est le plus facile. Il s'agissait de planter la graine. Et l'on vous a dit, tu es la terre de cette graine. Alors, tu vas t'exposer au soleil pour que la terre grandisse et que la graine grandisse elle-même. Mais tu ne t'exposeras jamais à la nuit, car la terre diminuera et la graine mourra. Et l'on vous a dit ce qui était bien et l'on vous a dit ce qui était mal. Puis l'on vous a dit, planter est beau, se tourner vers le soleil est beau aussi et nécessaire. Mais pour que la graine pousse et que la terre soit fertile, il faut mettre de l'eau. Aimez-vous les uns les autres. Donnez cette eau partout sur la terre et en vous-même, déclenchez ces trombes d'eau qui vont fertiliser votre cœur et votre conscience. Aimez-vous les uns les autres. Il y a donc en deux temps la terre qui a été préparée pour recevoir la graine. La terre a été arrosée pour développer la graine. Mais maintenant, la graine doit pousser. Pas simplement germer dans le centre de la terre, dans le centre de votre être. La graine doit pousser et apparaître à la surface de la terre et à la surface de votre terre intérieure. Et là, les alchimistes me comprendront très bien. Pour que cette graine et que ce germe s'épanouissent en une véritable plante, il faut que cessent les discours qui émettent des dualités et il faut que cessent les idées qui entretiennent ces dualités. Maintenant, vous devez voir les choses non pas d'une façon nouvelle, car il ne s'agit pas de nouveauté. La sagesse a toujours existé telle que j'en parle. Mais vous devez voir les choses d'une façon qui libère votre esprit. La liberté, c'est ça qui est nouveau pour vous. Jusqu'à présent, l'humanité était tenue, maintenue, encadrée, structurée, punie quand il le fallait, construite quand c'était l'heure. Aujourd'hui, l'humanité doit être un seul homme. Et cet homme doit apprendre à ressembler au grand homme, qui est aux cieux, soit au grand homme céleste, soit à Dieu si vous préférez. Et cette petite pousse qui est en train de sortir de la terre ne doit pas essayer de savoir ou de comprendre dans les livres comment elle doit pousser, comment elle doit sortir telle ou telle branche, comment elle doit au bout de la branche sortir telle ou telle feuille. Et vite pour cela, elle consulte les livres. La pousse ne doit pas faire de la sorte. La pousse doit simplement contempler ce qui existe déjà au ciel. Et pour cela, il lui faut lever son regard et contempler ce qui existe. Qu'est-ce qui existe au ciel? Il existe l'arbre cosmique. On peut l'appeler aussi l'arbre de la Kabbale. Vous l'appellerez comme vous voudrez. L'arbre cosmique existe au ciel. On peut le contempler. Pour que ce plant, ce petit arbre qui est en train de pousser, pour que cet arbre pousse de façon réelle et de façon divine, il n'a pas à contempler les choses de la terre, les connaissances de la terre. Il doit simplement se libérer de l'archaïsme de la pensée pour contempler le grand arbre qui est au-dessus de lui. Et il n'a rien à chercher, il n'a qu'à imiter. Il n'a pas à se demander, mais où vais-je faire sortir ma branche? Où dois-je faire pousser ma branche? Et de quelle grosseur doit être cette branche? Combien de feuilles doivent pousser sur cette branche? Quelle forme dois-je lui donner? Quelle méditation dois-je faire? Quel maître dois-je rencontrer? À quel maître j'appartiens? Avec quel rayon dois-je travailler? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie comme service, comme profession, etc. Arrête tout cela, ça ne sert à rien. Contemple l'archétype et automatiquement tu vas savoir ce que tu dois faire dans la matière. c'est immanquable. Contemple l'archétype. Comment contempler cet archétype? Contempler l'archétype n'est pas le moment de grâce des grands initiés. Ce n'est pas non plus la particularité du maître. Ce n'est pas ce qui arrive donc au bout d'un long chemin d'évolution. Contempler l'archétype est quelque chose d'accessible et de possible à tout instant dès que vous arrêtez le mental. Dès donc que vous arrêtez de penser qu'il existe ceci, qu'il existe cela, et que ceci existe de telle manière et que cela existe de telle manière. Si, sur le miroir de la conscience, vous projetez toutes ces pensées, toutes ces projections, toutes ces constructions, lorsque vous prenez ce miroir et que vous regardez ce qu'il y a dedans, eh bien vous allez voir toutes les projections et les constructions que vous y aurez mis. Autrement dit, lorsque l'homme médite, lorsque l'homme se prépare à monter sur un plan de conscience et à contempler un certain plan de conscience, il faut savoir qu'il ne peut contempler et qu'il ne se prépare à contempler que la zone de conscience qu'il a construite en pensant, en imaginant, en conceptualisant. Autrement dit, tant que vous pensez, vous rencontrerez vos pensées. Si vous ne pensez plus, vous rencontrerez la vérité. Ce qui ne veut pas dire que la pensée doit être tuée, car comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée est un processus qui habite la divinité elle-même. Simplement, il ne faut plus conceptualiser, créer des images, créer des concepts, créer des idées. Il faut simplement avoir ce qu'il faut de mental, ce qu'il faut de conscience pour pouvoir contempler et être conscient de la contemplation, donc de la vérité ou de l'objet divin. Comment arrêter le processus de la pensée ? Arrêter le processus de la pensée est quelque chose de très simple. Il ne s'agit pas de crisper le cerveau ou d'arrêter toute activité dès que l'activité commence, comme s'il s'agissait de se taper sur les doigts dès que les doigts vont aller attraper un gâteau. Il est très facile, très simple d'arrêter le processus destructeur de la pensée, ce processus qui appartient donc au mental inférieur et qui n'est là que pour conceptualiser des choses qui peuvent être contraires à Dieu. Comment arrêter cette pensée? Vous devez simplement ne plus utiliser ce qui crée la pensée dualiste. Vous ne devez donc plus penser avec l'interprétation du duel dans l'univers. Du chaud, du froid, du bien, du mal, de l'involution, de l'évolution, de l'homme et de Dieu, du maître et du disciple. Le mental inférieur est appelé inférieur, non pas parce que le mental est inférieur. Le mental inférieur est appelé inférieur parce qu'il est prisonnier de la dualité et qu'il croit toutes ces ombres qui se projettent sur le miroir et qui lui disent « Je suis blanc, je vais t'aimer » et « Moi, je suis noir, je vais te détruire ». Et l'homme, qui fait la somme des deux informations, se dit « Ouh là là, dans la ville, il y a les bons et les mauvais. Je vais aller vers les bons parce que c'est facile et je vais me méfier des mauvais parce que ceux-là ne vont me faire que des ennuis. » Lorsque vous avez une pensée dualiste et que votre psychologie fait la somme des deux, vous en arrivez à être un homme qui va se détruire lui-même. Parce que non seulement il ne saura pas être heureux avec ses ennemis, mais cet homme en plus va voir en lui qu'il existe aussi ce bien et ce mal, ce diable et ce bon Dieu. Ce qui fait que tant que le disciple n'a pas compris que le bien et le mal n'existent pas et que cette dualité est une fausse conception qui peut l'entraîner dans la mort, tant que le disciple n'a pas compris cela, il ne s'aime pas lui-même. Et il se dit, mais je ne comprends pas. Hier, j'ai dit quelque chose d'extraordinaire à mes amis, je les aimais tous, je me sentais capable d'aimer l'univers entier, c'était fantastique, je brûlais d'amour, et aujourd'hui, simplement parce qu'un tel m'a ignoré, ou simplement parce que mon voisin m'a insulté, ou parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux dans mon métier, me voilà envahi de haine, me voilà négatif. Voilà que j'ai été irritable avec mon voisin ou avec mon épouse ou mon époux. Alors que 5 minutes avant, j'aimais mon partenaire. Je lui aurais tout donné, même ma vie, même mes foies, mes yeux, mes reins. Et voilà que subitement, en 5 minutes, je suis capable non seulement de lui retirer la vie que je lui aurais donnée, mais en plus, je suis capable de le jeter loin de moi et de penser du mal de la personne. Quand le disciple constate cette chose en lui-même, il éprouve une énorme crise et il se dit, c'est que je ne suis pas évolué. Je suis après tout inférieur. Je n'ai aucune initiation. Ce n'est pas possible que j'ai reçu une initiation. Je ne penserai pas de la sorte si j'étais née initiée ou si mes méditations étaient vraiment bonnes et qu'elles m'amèneraient à quelque chose. Je ne suis rien. Je suis nul. Ne me regarde pas, Seigneur. Je ne suis pas digne de toi. Tout le mouvement de la vie comme étant autant de duels. Automatiquement, le disciple voit en lui aussi le duel. Et la psychologie humaine ne supporte pas ce duel. Un jour ou l'autre, le disciple abandonne. Il se dit, non, je ne veux pas